Et c'est Florence que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Florence.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors je vous écoute, quel est votre... De quoi vous avez envie de parler ce soir?
Je voulais vous parler de don d'organes.
Oui.
Je suis la maman d'une jeune fille qui a malheureusement été tuée dans un accident il y a bientôt 2 ans. Elle n'a pas été tuée sur le coup, elle a été plongée dans un coma d'emblée. Et 5 jours après cet accident et 5 jours après un coma profond, on nous a annoncé qu'elle se trouvait en état de mort encéphalique. Nous avons fait le choix avec son papa et avec ses frères et sœurs de donner ses organes. Et donc, grâce finalement au décès d'Alice, 6 personnes ont pu être greffées dans les heures qui ont suivi le prélèvement des organes de notre fille. Mmh. Après cette terrible histoire, j'ai beaucoup potassé le don d'organes. Je me suis beaucoup renseignée, même si la coordination des dons d'organes qui s'était occupée de nous au moment de l'accident de notre fille avait déjà répondu à moult questions. Et je me suis rendu compte, en fait, en potassant, que finalement, quoi qu'on fasse, il n'y aurait jamais assez d'organes pour le nombre de personnes qui en attendent. Simplement parce que sur 620 000 morts décès par an, toutes causes confondues, il y a à peu près 2000 décès seulement qui peuvent donner lieu aux dons d'organes. Pour pouvoir prélever des organes, il faut être décédé dans des conditions très particulières, en général assez violentes, puisqu'il faut dans la plupart des cas se retrouver en état de mort encéphalique.
Oui.
Voilà. Donc il faut un choc, soit un traumatisme crânien extrêmement grave, soit... un AVC invasif massif, mais bon, ce sont des conditions de décès assez violentes, assez subites. Donc la famille se retrouve dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se faire à l'idée, pour autant qu'on puisse se faire à l'idée de la mort d'un proche.
Bien sûr.
Mais ce qui fait qu'effectivement, 30% des personnes qui pourraient dire oui au don d'organes, en fait, le refusent. Et 30% sur 1900, sur le peu de donneurs possibles, c'est colossal. Alors je me suis dit qu'il y avait plusieurs moyens de faire avancer un peu le schmilblick. Évidemment, la science fait largement sa part, hein, puisque les médecins, les scientifiques travaillent au meilleur repérage des morts encéphaliques, travaillent à des techniques de réanimation qui permettent de maintenir les organes dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent être prélevés, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de communication, même si l'Agence de la biomédecine communique déjà beaucoup. Je pense qu'on peut éveiller quand même un minimum les consciences en communiquant davantage. C'est moi ce que je me suis employée à faire en publiant un livre l'an dernier, en novembre dernier, sur ce sujet. Et j'ai à cœur d'en parler parce que je me suis rendu compte en discutant avec mes proches, avec nos amis, etc., qu'il y avait énormément de tabous
autour du don d'organes. C'est encore plus tabou que la mort comme sujet, ça.
C'est un sujet qui dérange,
ouais.
C'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet pour lequel il y a énormément de confusion entre don d'organes et don du corps à la science. Je m'en aperçois régulièrement on me dit « mais comment tu as pu faire don du corps de ta fille à la science ?» Mais je n'ai pas fait don du corps de ma fille à la science.
Ça n'a rien à voir.
Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis surtout une grande ignorance du sujet, en fait, de ce que c'est, de la manière dont ça se passe. Et donc j'ai décrit dans ce livre, sans tabou, aucun, comment une famille, et je crois que j'étais la mieux placée pour en parler finalement, comment une famille qui est confrontée un jour à la mort brutale d'un proche est prise en charge par la coordination des dons d'organes et peut, sans beaucoup d'efforts, dire oui. Parce que finalement, donner les organes d'un proche, ça ne demande pas d'efforts, si ce n'est de dire oui. Voilà, ça ne demande rien d'autre. Je me suis rendu compte également, et je communique beaucoup autour de ça, sur le fait que le don d'organes ne m'a rien enlevé de plus. Le don d'organes n'a pas ajouté à mon chagrin. Et que tout ce qui est difficile, finalement, dans cette histoire, c'est la perte du proche. Ce n'est pas le don en lui-même.
Ouais.
La personne dont on prélève les organes est évidemment décédée. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Alors, on va en parler plus en détail, si vous le permettez, Florence. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant et je vous suis extrêmement reconnaissante d'avoir le courage d'appeler pour en parler ce soir, parce que c'est assez rare. Et je trouve ça assez formidable. Est-ce que vous voulez bien me raconter déjà avant, dans votre famille, est-ce que c'est un sujet dont vous parliez, par exemple, entre vous ?
Alors, pas du tout.
Eh oui, comme
pas du tout. C'est un sujet dont on n'avait jamais parlé. Le fait est que quelques mois avant l'accident de notre fille, sa petite sœur, qui était âgée alors de 10 ans, a, elle, abordé le sujet comme ça, au cours d'un déjeuner, en lui disant « Enfin, quand même, c'est affreux, il y a des gens, on les tue pour prendre leurs organes. » On a tout de suite rétabli la vérité, ça a fait beaucoup rire sa sœur aînée, qui elle-même s'est empressée de lui dire « Mais ça ne se passe pas comme ça, ces gens sont déjà morts, et comme ils sont morts, ils n'ont plus besoin des organes qui sont encore, eux, en bon état, et donc on peut les proposer à des gens malades. » Pour qu'eux aillent mieux.
Elle savait tout ça du haut de ses 16 ans.
Ouais, elle savait ça.
Comment s'appelait votre fille ? On va peut-être te donner un prénom.
Alice.
Alice, d'accord. Alice. Donc Alice, elle savait déjà tout ça du haut de ses 16 ans.
Ouais, c'est Alice, surprenant. Elle savait ça. Ouais, elle savait ça parce que Alice est une jeune fille qui a souffert d'un handicap. En fait, elle est née avec une tumeur au cerveau, donc son parcours de vie est quand même assez assez hors norme.
Ouais.
Voilà. Et donc, elle a grandi dans une école qui accueillait des enfants en situation de handicap moteur et psychomoteur, et dans une école dans laquelle tous ces sujets qui touchent à la maladie, qui touchent à la mort, qui touchent au handicap, sont évidemment abordés sans tabou avec tous ces enfants qui souffrent même de handicap et qui passent une partie de leur vie dans des hôpitaux divers et variés. Et donc, pour elle, c'était très banal, finalement. Donc, elle a dit ça comme ça à sa sœur. Mais comme les enfants ne nous ont pas posé la question à ce moment-là de nous dire « Et vous, du coup, si ça vous arrive, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais on n'a pas répondu à la question. La question qui ne se pose pas, on n'y répond pas.
Mmh. Donc vous êtes passé à autre chose.
Donc on est passé à autre chose et on a continué notre déjeuner joyeusement. Et puis, voilà. Et on était évidemment très, très loin de s'imaginer que quelques mois plus tard, on serait confronté à cette question.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à Alice, d'ailleurs ?
Alice, elle a été victime d'un accident d'équitation. Elle a reçu un coup de pied de cheval dans la tempe.
Oh, ouais.
Voilà. Le cheval n'est pas pour grand-chose, elle non plus. C'est le mauvais moment, au mauvais endroit. Le pur accident. C'est-à-dire que le cheval est tombé à côté d'elle, elle s'est baissée pour ramasser sa longe et il s'est relevé au même moment. Elle a pris le coup de pied.
C'est la faute à personne.
Vraiment... Faute de personne, aucun coupable, aucune... pas de colère non plus envers qui que ce soit de notre part. Elle a donc été plongée dans ce coma d'emblée et on s'est retrouvés avec son papa tous les deux à Necker dans une salle d'attente pendant qu'Alice était en salle de déchocage et qu'on attendait des nouvelles du médecin. Et puis quand le médecin nous a expliqué que les choses étaient très graves et que Alice était dans un état très très grave, que son pronostic vital était très engagé et qu'on allait devoir l'opérer, bon, il nous a laissé avec ça. Attendre que l'opération se passe. Et pendant ce temps-là, en quelques secondes, on s'est dit, mais si on nous annonce que son cerveau ne fonctionne plus, qu'elle est en état de mort encéphalique, qu'est-ce qu'on fait ? Mon mari m'a regardé, m'a dit, qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse ? Et je lui ai dit, j'en sais rien, mais au moins on donne son cœur, quoi. La vie ne peut pas s'arrêter comme ça.
Vous pensiez déjà au don d'organes avant qu'on vienne vous le demander ?
Oui, oui.
Ça vous est revenu à l'esprit tout de suite, ça ?
Oui, on y a pensé avant que la question ne se pose.
Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là alors ? Ça va dans tous les sens ou c'est assez posé finalement, assez
évident ?
Non,
c'est très posé. Ouais. C'est très posé, on est très calme tous les deux. Alors on est évidemment effondrés et en même temps assez calme. On n'est que tous les deux, c'est le soir, il est assez tard. Et très posément, je dis à mon mari, moi j'aimerais qu'on donne au moins son cœur parce que pour moi la vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Et il me dit, d'accord, voilà. Et on n'en parle plus. Le sujet est clos, la question est éludée, elle est éludée pour les 5 jours qui viennent. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans les jours qui vont suivre, en fait, on ne repense à cette question-là et on ne la réaborde et on ne réenvisage le décès possible de notre enfant, en fait, à aucun moment. C'est finalement lorsque le médecin nous annonce que Alice ne se réveillera pas, que là, tout de suite, on lui dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire un don d'organes. Et là, il nous explique que pour faire don d'organes, il faut qu'elle soit en état de mort encéphalique, que pour le moment, elle est végétative, mais elle n'est pas décédée. Et finalement, le lendemain, lorsqu'on arrive à l'hôpital, on nous annonce que les choses ont changé et que Alice est manifestement décédée et que des examens sont en cours pour prouver la mort encéphalique. C'est un processus qui prend un peu de temps. Pour déclarer quelqu'un en état de mort encéphalique, il y a des examens médicaux et notamment des électroencéphalogrammes à plusieurs heures d'intervalle interprétés par différents médecins, puisqu'il faut prouver qu'il n'y a plus aucune activité électrique dans le cerveau, ni plus aucune vascularisation du cerveau, donc ça prend du temps. Mais à partir du moment où on nous a eu annoncé ça, la question pour nous, elle avait été tranchée 5 jours avant, donc on n'est pas revenu dessus, quoi.
Est-ce qu'ils sont venus vous voir tout de suite pour vous expliquer un peu comment les choses allaient se passer ?
On est venu nous voir dans la soirée, effectivement, après que les examens aient été faits, en attendant les diagnostics. Et là, on a été reçus par la coordination des dons d'organes. Et très vite, on nous a dit qu'on leur avait fait gagner beaucoup de temps.
Et c'est ça, oui, c'est ce que je me disais. Par contre, à ce moment-là, pour vous, dans votre esprit, c'est toujours juste le cœur ?
À ce moment-là, moi, je n'ai pas d'idée, en fait. Je n'ai pas d'idée. Bon, il faut savoir qu'on donne ce qu'on veut. On se rétracte à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut, au bout d'un moment, dire non, stop, finalement, je ne suis plus d'accord, je ne veux plus. Enfin, voilà, il n'y a pas de... on ne nous force pas la main, évidemment.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, on vous explique très concrètement comment les choses vont se passer ?
Oui.
C'est important pour des parents, ça doit être quand même des cruciales, ces questions-là.
On nous explique, la première chose qu'on nous dit, c'est que l'on va répondre à toutes nos questions et qu'il n'y a aucune question taboue. Et donc là, on comprend que même les questions les plus trash, si j'ose dire, on a le droit de les poser, quelqu'un va nous répondre. Mais et c'est vraiment hyper important. Et on nous explique aussi que toutes les questions qui se posent ce soir, d'autres se poseront peut-être dans la nuit, d'autres se poseront peut-être demain matin, et il sera encore temps d'y répondre.
Florence, pardonnez-moi, on va devoir laisser la place aux informations.
Je vous en prie.
Si vous le permettez, on va reprendre bien sûr cette conversation dans quelques minutes.
Sans problème.
Merci de votre patience. On se retrouve dans un instant, juste après les infos.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Donc pour la suite et la fin de cette libre antenne, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler tout au long de l'émission si vous souhaitez prendre la parole à n'importe quel moment. Vous faites le 3921, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime. 3921 donc pour le téléphone, 73921 en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Vos SMS pour donner un avis, apporter un soutien ou demander à être mise en relation avec quelqu'un qui vous a par exemple particulièrement touché. 73921 et vous commencez bien par le mot nuit. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Notez que les mails sont pratiques aussi si vous souhaitez vous inscrire pour un autre soir, par exemple pour demain. Mettez bien votre nom, votre téléphone et le sujet que vous aimeriez aborder.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et on retrouve Florence. Florence, vous êtes là ?
Oui.
Alors, vous nous avez appelé ce soir, Florence, pour nous parler de la mort d'Alice, votre fille, et surtout de votre décision à votre mari et vous de donner ses organes. Et juste avant les infos, vous me parlez de l'équipe qui s'est occupée de ça en me disant qu'ils vous ont beaucoup entouré, qu'il n'y avait pas de pression du tout, me disiez-vous.
Aucune pression. C'est-à-dire que le fait est que nous, on a fait gagner beaucoup de temps parce qu'on avait été les premiers à aborder le sujet avant que la question ne se pose et qu'on en avait fait part au médecin réanimateur chef du service qui nous avait annoncé qu'Alice ne se réveillerait pas. Mmh. Et ça, c'était environ 24 heures avant le décès d'Alice. Mais du coup, ça a été consigné dans les notes du dossier médical d'Alice. Et lorsque, dans la nuit qui a suivi, ils ont constaté les premiers signes de mort encéphalique, ils ont tout de suite alerté la coordination des dons d'organes qui a pu très très vite se mettre au travail pour remplir le fameux dossier cristal qui anonymise le dossier du patient donneur et le dossier du patient receveur et dans lequel finalement on rentre tout ce qui concerne le patient, son poids, sa taille, son âge, Ensuite, il y a des examens qui sont faits, des échographies qui sont faites pour étudier les organes qui pourraient éventuellement être proposés. Et tout ça prend du temps. Donc, de fait, le fait que nous ayons abordé le sujet les premiers leur a fait gagner du temps.
Et ça a facilité beaucoup les choses, bien sûr.
Ça leur a beaucoup facilité les choses, mais en même temps, on nous a aussi expliqué que notre décision, elle n'était pas... on pouvait revenir dessus à tout moment. On nous a aussi expliqué qu'il n'y avait aucun sujet ni aucune question taboue dans toutes celles qu'on pourrait avoir à poser, bien qu'on était quand même un peu sidérés par ce qui était en train de se produire. Et effectivement, ils ont répondu à toutes nos questions. Et c'était très étonnant parce que mes maris, évidemment, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière dans ces cas-là. Et mon mari, lui, avait besoin d'énormément de détails. De détails techniques sur la manière dont ça allait se passer, comment se déroulait l'opération, qu'est-ce qu'on pouvait prélever, combien de temps durait l'opération, comment ça se passait pour les receveurs à l'autre bout de la chaîne, etc. Et toutes ces questions-là ont eu des réponses ce soir même-là.
Et vous, vos questions à vous, c'était plutôt quoi ?
Alors moi, j'avais pas de questions. Moi, j'avais pris la décision. Je ne voulais à ce moment-là pas savoir ce qui serait prélevé. Je n'émettais pas non plus de restrictions, parce qu'on peut dire je ne veux pas donner le cœur ou je ne veux pas donner le foie. Enfin voilà, on peut évidemment choisir l'organe qu'on veut donner. Moi, je n'avais pas de choix à faire, mais je ne voulais pas savoir. À ce moment-là, je n'avais pas besoin et je n'avais pas envie de savoir.
Est-ce que c'est une décision à ce moment-là, justement, dont vous avez parlé à votre autre fille, à sa petite sœur ?
Alors, on en a parlé avec elle le lendemain. Puisque le lendemain, Camille a voulu voir sa sœur. En fait, le soir, quand on est rentré à la maison, il lui a expliqué qu'elle ne se réveillerait pas. Elle a demandé si elle pourrait venir voir sa sœur à l'hôpital. Et évidemment, c'était possible. Et un de ses frères était avec nous encore, puisque ses deux grands frères sont étudiants, n'habitent plus à la maison, sont étudiants en province. Et l'un des deux avait pu rester pour la semaine. Donc, les deux ont demandé à voir Alice. Donc Camille a d'abord été reçue par la psychologue du service avant de voir sa sœur. Puis elle a été accompagnée dans la chambre par la psychologue et par l'anesthésiste et par nous. Et l'anesthésiste et la psychologue lui ont donc expliqué à quoi servaient tous les appareils qu'elle voyait autour de sa sœur. Il n'y avait absolument rien de choquant puisque la blessure ne se voyait pas, elle était cachée par un pansement et que le visage d'Alice était intact. Donc...
Rien de traumatisant.
Rien de traumatisant, en tout cas visuellement pour elle, mais quand même, Alice était maintenue en respiration artificielle, de fait. Puisque pour pouvoir prélever les organes, il faut que ceci soit oxygéné régulièrement. En fait, le cas d'Alice est assez particulier, ça s'appelle une mort à cœur battant. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui décède et le cœur continue, lui, à battre parce qu'il est oxygéné. Le cœur continue à battre, oui, parce qu'il est oxygéné. Et quand on est sorti de cette pièce, Camille me dit « Mais maman, quand même, à quoi ça sert de garder son cœur, en fait ? Pourquoi on continue à faire battre son cœur, puisque Alice est décédée ? À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va en faire de son cœur ?» Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on en fasse ?» Et elle m'a regardée et elle m'a dit « Maman, est-ce qu'un cœur, ça se donne ?» Et je lui ai dit « Ben oui, un cœur, ça se donne. » Et justement, si on maintient le cœur de ta sœur en train de battre grâce à la respiration et à la réanimation artificielle, c'est parce qu'on est en train de faire des examens et en train de chercher quelqu'un, quelque part, qui pourrait avoir besoin d'un cœur tout neuf, en bonne santé. Mmh. Et ça, je pense qu'elle a été rassurée qu'on lui dise la vérité. Puisque son grand frère était là, on lui a posé la question également. Il est beaucoup plus grand, hein. Il avait 22 ans au moment où sa sœur est décédée. Donc lui nous a dit, évidemment, il n'y a que ça à faire, c'est la meilleure des choses à faire. Ne vous prenez pas la tête, réfléchissez pas 1000 ans, bien sûr que vous avez raison de faire ça. Et puis, donc, on a téléphoné au deuxième grand frère qui, lui, était rentré dans son université. Et on lui a posé la même question. Et donc, on était tous les cinq complètement d'accord sur le sujet.
Est-ce qu'à ce moment-là, on vous parle des receveurs ou jamais ?
On ne nous parle pas des receveurs, puisque donc, le don d'organes est gratuit, anonyme. On ne nous parle pas des receveurs. En revanche, on nous dit tout de suite que, bien sûr, on pourra avoir des nouvelles des receveurs. On pourra les demander à l'Agence de la biomédecine. Donc on ne saura jamais qui c'est, quel est leur âge, où ils habitent, quelle a été leur vie, quel est, pourquoi, de quelle pathologie ils souffraient, pourquoi avaient-ils besoin d'un organe, ça on ne saura pas. Mais ça, ça m'importe peu en fait, je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui m'a beaucoup importé au début et un peu moins maintenant, c'est de savoir qu'ils allaient bien, en fait, que la greffe avait fonctionné. Ça pour moi, ça a été important. Et ça, moi, on l'a su la semaine qui a suivi, en fait, une fois que les transplantations ont été faites et que les gens n'étaient plus en réanimation. On nous a effectivement donné des nouvelles en nous disant, voilà, les six transplantations se sont bien déroulées, les patients vont bien. Mmh. Et j'ai, la première année, demandé des nouvelles de temps en temps. Là, ça fait un moment que j'en ai pas reprise, mais aujourd'hui, je crois que, voilà, je suis rassurée de savoir que ces gens vont bien. Et puis après, ben, leur vie leur appartient. C'est-à-dire que nous, on a juste donné un outil fantastique, tout neuf, pas usé, pas abîmé par la vie, pas abîmé par la consommation d'alcool ou de tabac. Des outils qui provenaient du jeune fille qui était en pleine santé et qui avait une très belle hygiène de vie. Ce qu'ils en font, ça leur appartient, ça leur regarde, la manière dont ils guérissent. Leur envie de se battre, leur envie de vivre, les projets qu'ils ont envie de faire, ça leur appartient, c'est pas ma vie.
Mais est-ce que vous avez l'impression que votre fille vit encore finalement à travers ces gens-là ?
Alors moi non, pas du tout, mais je sais que certaines familles de donneurs ont cette impression-là. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Je suis complètement sereine par rapport au décès de ma fille, c'est-à-dire que bon, ben voilà, c'était un accident, j'ai personne à blâmer, j'ai pas de colère. J'ai personne à qui en vouloir, c'est comme ça, c'est tragique, mais c'est comme ça. Mais je n'ai pas du tout l'impression qu'elle continue à vivre à travers eux. En revanche, à chaque fois que je rencontre des receveurs en pleine force, j'ai rencontré des receveurs qui courent des marathons, des receveurs qui ont des tas de projets, des gens qui ont été transplantés cardiaques ou transplantés des poumons et qui vont admirablement bien et qui ont repris une vie pleine de vie, justement, ce dont ils étaient empêchés auparavant, qui parfois ont pu avoir des enfants après, etc., enfin, qui se sont reconstruits. Et ben, je me dis qu'on a bien fait, qu'on a vraiment bien fait. Parce que pour Alice, de toute façon, rien de plus ne pouvait être fait. Et ne pas donner ses organes n'aurait rien changé au fait qu'elle était décédée, de toute façon.
Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de venir parler à des parents qui seraient dans cette situation et qui seraient indécis ou éventuellement, qu'est-ce que vous leur diriez à des gens qui traverseraient cette épreuve-là ?
Je leur dirais qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Mon but n'est pas de convaincre qui que ce soit qui aurait une idée très tranchée. Et d'ailleurs, c'était ce qu'un médecin réanimateur m'avait dit. Il m'avait dit bah, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui savent. Dans ceux qui savent, il y a ceux pour lesquels c'est oui et c'est oui et c'est votre cas. Et voilà. Et dans ces cas-là, on gagne du temps. Il y a ceux pour lesquels c'est non. Et ceux pour lesquels c'est non, on ne parviendra pas à les faire changer d'avis. On le sait, et en tout cas, ce n'est pas au moment du décès, au moment où on se retrouve dans une situation tragique, violente, qu'on est à même de changer d'avis sur quelque chose qu'on a très ancré en soi. Puis il y a ceux qui ne savent pas. Et moi, c'est surtout aux indécis que je m'adresse finalement. C'est de leur dire, ben, décidez-vous maintenant, que ce soit oui ou non, mais décidez-vous tant que la question ne se pose pas. Parce qu'au moment où la question se pose, on est rarement... Je ne sais pas, nous, ce qui a fait qu'on a été... Je suis incapable d'expliquer comment on a été en mesure de prendre une telle décision dans un moment aussi grave. Mais je pense que dans la plupart des cas, justement, c'est très difficile de prendre une décision éclairée quand on se retrouve en état de sidération face à la mort tragique de quelqu'un. Et ce que j'ai toujours dit à mes amis, posez-vous la question pour vous, peu importe la réponse, que ce soit oui ou non, mais soyez au clair avec vous-même, avec votre conscience et avec les raisons qui animent cette décision. Et puis posez-vous la question malheureusement aussi pour vos enfants. Parce que bah, le fait est que ça n'arrive pas qu'aux autres, on en est la preuve vivante. Et qu'au moment où le drame survient sur un enfant, la vie des deux parents est recueillie et les deux parents doivent signer un accord de prélèvement. Donc il faut que les deux soient d'accord, de fait. Et c'est vrai que si je devais m'adresser aujourd'hui à des parents ou à des gens qui ne savent pas, pour moi, le plus important, c'est qu'ils y réfléchissent maintenant, tant que tout va bien. Et parce que je me dis que nous, ce qui a sauvé notre décision, c'est qu'on se pose la question, finalement, OK, dans un moment tragique, mais à un moment où l'hypothèse de la mort d'Alice n'était pas encore envisagée.
Quelques jours avant, oui.
Ouais.
Et au sein de votre famille, comment ça a été pris, tout ça, les grands-parents, les tantes, tous ces gens-là ?
Alors,
ça a posé un problème ou pas ?
Ça n'a pas posé de problème. Je crois que ma belle-mère a été un peu choquée au moment où on lui a annoncé. Il faut dire à sa décharge qu'on lui a annoncé c'est la personne avec laquelle j'avais le plus de mal à en parler, parce que c'est évidemment quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'ai pas la relation que je peux avoir avec mes parents, avec lesquels je peux parler en toute franchise, sans tabou. Donc la décision, on l'a imposée à nos parents en leur disant, on va faire le don des organes d'Alice. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Après, à ce moment-là, moi, je me suis entendue dire parfois, après, c'est votre conscience à vous, débrouillez-vous avec elle, moi, je ne peux pas porter tout ça. Voilà, je suis désolée, je vous impose notre décision, mais il n'y aura pas de tabou autour de ce sujet, je ne veux pas qu'il y en ait. Je ne veux pas que les enfants découvrent par hasard, à un moment donné, dans une discussion dans 20 ans, que finalement, les organes d'Alice ont été donnés. Quoi. Je voulais que les choses soient claires dès le départ, parce que le sujet est déjà tellement douloureux, c'était pas la peine non plus qu'on aille s'embarquer dans des demi-mensonges ou des choses à moitié dites, etc. Donc, les choses ont été très claires de mon côté. J'ai dit tout de suite les choses à mes parents, et voilà. À mes parents, à ma sœur, qui elle-même en a parlé à ses enfants, qui était un peu plus grand qu'Alice, mais bon, voilà, on a imposé ça. Et puis à ma belle-mère, en fait, je lui ai annoncé, alors qu'on partait pour la mise en bière. Donc on était en voiture et c'est le seul moment que j'ai trouvé en fait. Pour moi, je ne pouvais pas, il n'était pas possible que je la laisse aller à l'enterrement de sa petite fille sans qu'elle sache.
Comment se fait-il que votre mari ne lui ait pas dit avant ?
Je l'ignore. Je l'ignore. Peut-être par pudeur, par tristesse. Mmh. Pudeur, tristesse, probablement. Enfin, en tout cas, je ne le juge pas, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on allait à la mise en bière d'Alice et là, je me suis dit, il faut qu'elle le sache avant l'enterrement parce que je ne peux pas la laisser dans l'ignorance alors que tout le monde autour de nous sait et qu'on va retrouver à l'enterrement des dizaines et des dizaines de personnes qui le savent. Elle ne peut pas être la seule à ne pas savoir, ce n'est pas possible. Et donc, je le lui ai dit. Vous savez, on a donné les organes d'Alice. Et sa première réaction était de me dire, mais enfin, mais pourquoi vous avez fait ça ? Et je lui ai dit, mais vous savez, on l'a fait pour sauver des vies. On l'a fait parce qu'Alice était une enfant généreuse. Et on l'a fait parce qu'Alice était décédée aussi. Et que ne pas le faire ne changeait rien au fait qu'Alice était décédée. Oui. Et bon, voilà, je l'ai laissé là-dessus. Et puis, nous sommes allés à la mise en bière. Et en revenant pour aller à l'inhumation, finalement, en remontant dans la voiture, je pense que... Donc, du coup, elle a vu sa petite fille. Elle a vu que rien ne se voyait. Et finalement, au retour dans la voiture, elle m'a dit « Vous avez bien fait. »
Oui.
Voilà. Donc, je pense qu'elle avait compris. Et ça aussi, c'est un message important. C'est de bien comprendre que prélever les organes consiste en une intervention chirurgicale extrêmement maîtrisée
et propre, oui.
Qui est très propre, réalisée par des chirurgiens experts qui prêtent une grande attention au corps qu'ils ont entre les mains.
Oui, c'est vrai, parce que c'est important ce que vous dites là, pardon de vous couper, mais parce qu'il peut y avoir quelque chose du domaine du fantasme là-dedans.
Oui, on peut imaginer des choses horribles. Profanation du corps.
Exactement, bien sûr. Oui, bien sûr.
Oui, on profane le corps des morts, enfin voilà, on leur prend des bouts comme ça, mais bien sûr, moi j'ai entendu tout ça. Et ben en fait, pas du tout. Nous, on a retrouvé notre fille intacte dans l'état dans lequel on l'avait confiée, mais décédée, voilà. Mais on l'avait confiée décédée déjà, donc...
Effectivement, ça n'a rien changé.
Ça n'avait rien, non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Si ce n'est qu'on l'a confiée décédée à cœur battant, donc réanimée, enfin en cours de réanimation artificielle, donc... ventilée avec une respiration qui n'est pas naturelle, mais une respiration et une peau chaude, et qu'on l'a récupérée décédée, dégagée de respirateurs artificiels et des perfusions qui la maintenaient, qui maintenaient ses organes, parce qu'elle, pour le coup, elle était déjà partie. Mais, donc évidemment, on a récupéré un corps défunt cette fois, vraiment défunt, avec l'image de la mort qui se ressemble. Ce qui est surprenant dans la mort encéphalique, c'est que la mort ne se ressemble pas, enfin en tout cas, elle ne ressemble pas à l'image que l'on en a. Quand on l'a eu récupérée après le prélèvement, de fait, la mort se ressemblait. Ça, il n'y a pas plus de doute là-dessus.
Oui.
Mais il n'y a pas de profanation du corps, effectivement. Elle n'était pas abîmée du tout.
Et quel est votre rapport, vous, avec la mort ? Qu'est-ce que vous pensez de la suite ? Si suite il y a ?
Écoutez, je ne sais pas si suite il y a. Je pense qu'Alice repose quelque part où elle est bien, en fait. Je la sens. Enfin, je me dis toujours qu'elle doit être sereine là où elle est parce qu'elle a accompli ce pourquoi elle était venue. Mmh. Vous savez, Alice, donc, je vous ai dit au début, elle était née avec une tumeur au cerveau, elle a été opérée. À ce moment-là, elle avait 3 mois et les médecins ne donnaient pas bien cher de sa vie. Ils nous avaient dit, vous savez, ça va être compliqué, grosse tumeur au cerveau, on lui a enlevé tout le lobe temporal gauche. Voilà, elle va rester un très fort handicap. Un handicap de quelle nature, on l'ignorait. Et puis en fait, la vie nous a montré que Alice a surmonté la plupart des handicaps. Elle souffrait d'un handicap psychomoteur, finalement, pas si invasif que ça. Elle avait très bien, elle montait à cheval, elle faisait du sport. Elle avait une lenteur dans l'exécution de certaines tâches. Mais bon, voilà, c'était un handicap qu'elle parvenait à surmonter avec beaucoup de rééducation. Et toujours, je me suis dit que cet enfant n'était pas là par hasard. Toujours. Je me suis toujours dit, c'est fou comme elle s'accroche à la vie de cette enfant. Et c'est fou comme elle a vu une joie de vivre incroyable. Et je me suis toujours dit qu'elle n'était pas là par hasard. Alors, est-ce que j'avais tort? Est-ce que j'avais raison? Je ne le saurais jamais. Le fait est qu'elle est décédée très jeune, pour notre plus grand malheur, mais qu'elle a fini par donner ses organes.
Et c'est elle qui vous a donné cette force aussi?
Ah oui, mais ça, j'en suis convaincue.
Oui, c'est une évidence.
Ah oui, mais ça, j'en suis convaincue. Ça, je le sais et je le disais d'ailleurs. Je lui disais, c'est grâce à toi qu'on se marre autant et c'est grâce à toi que je me sens si armée, finalement. Elle ne reculait devant rien.
Oui. Ce livre, Florence, vous l'avez écrit combien de temps après son décès?
J'ai commencé à l'écrire 3 mois après son décès. J'ai commencé à l'écrire en janvier.
Il est publié?
Oui, il est publié chez City Edition, ça s'appelle Le Don d'Alice.
Le Don d'Alice, voilà, c'est ce que je voulais vous demander.
Voilà, Le Don d'Alice chez City Edition. C'est un livre que j'ai coécrit avec un ami qui est journaliste, parce qu'à un moment donné, j'écrivais, et puis je me disais, j'aurais jamais le courage d'aller au bout. Et donc j'ai appelé cet ami, Frédéric Veil, qui lui-même est journaliste et qui a écrit plusieurs ouvrages, en disant, j'ai besoin d'un coach. J'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser à aller au bout, parce que moi, des fois, tu sais, j'ai vraiment envie de tout envoyer balader et je me dis que je n'y arriverai jamais. Il m'a dit, t'inquiète pas, tous les jours, je te demanderai combien de pages tu as écrit et on va travailler ensemble et tu vas y arriver. Et donc, on a travaillé ensemble, il m'a beaucoup interviewé, il a écrit une partie, j'en ai écrit une autre. On s'est relus mutuellement et ça a été un travail extrêmement plaisant, extrêmement réparateur aussi pour tout le monde.
Oui.
Pour moi, la première, parce qu'après le décès d'Alice, je m'astreignais à un exercice fastidieux et chronophage qui était de me souvenir de toute l'histoire du début à la fin chaque matin avant d'entamer ma journée, de peur d'oublier cette affreuse semaine, parce que même si elle est affreuse, j'ai pas envie de l'oublier. Et je me suis dit que si je l'écrivais, ben j'aurais plus peur de l'oublier, puisque l'histoire elle serait posée sur mon étagère.
Oui.
Et puis après, je l'ai écrit aussi pour nos enfants, parce que Camille avait 10 ans au moment de l'accident de sa sœur. Et je me suis dit, peut-être qu'en grandissant, elle va oublier une partie de l'histoire et peut-être qu'elle aura besoin, à un moment donné, de la retrouver pour la partager avec ses amis, avec son futur amoureux peut-être. Et puis, j'espère, peut-être aussi avec ses enfants, j'en sais rien, mais en tout cas, pour pas que l'histoire soit travestie avec le temps, avec la mémoire de chacun qui fait son œuvre, je me suis dit qu'écrire était aussi un service que je rendais aux enfants, finalement. Que si eux n'avaient pas envie de raconter l'histoire, mais que leur conjoint avait envie de la connaître, eh ben, il suffirait qu'ils lisent le livre. Voilà. Ça simplifierait la vie de tout le monde. Et comme il n'y a pas de tabou et que c'est notre histoire et la leur, voilà, il n'y a rien à inventer autour. Et donc, voilà, donc on a publié ce livre et voilà, tout le monde était très content finalement de ce projet.
Le
don nous a aidé à repartir.
Le Don d'Alice, publié chez City Edition.
Ouais, c'est ça.
Il y a énormément de messages, bien évidemment, de soutien pour vous, Florence. Et je crois que le plus beau, c'est Lisa qui dit « Quelle belle leçon d'humanité, d'humilité ». C'est moi qui rajoute d'humanité, parce que c'est vraiment ce que je ressens vous écoutant depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça, quelle belle leçon d'humanité aussi.
Écoutez, cette histoire, en tout cas, m'a appris qu'il faut rester effectivement très humble devant la vie. Très, très humble, parce qu'on ne sait jamais... qu'elle nous réserve, du meilleur au pire. Je sais aussi aujourd'hui que la vie reste belle en dépit de ce drame. Tout est question d'éclairage, tout est question de la manière dont on la regarde, tout est question de la manière dont on accepte de continuer à la voir belle après avoir vécu un drame pareil. Et si c'est possible pour moi, je pense que c'est possible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. qui rencontrent des difficultés de ce type.
Mais je suis
le don d'organes aide.
Je suis persuadée que votre témoignage va nous faire réfléchir. On va être nombreux à réfléchir à tout ça après vous avoir entendu.
Bah, pensez-vous, vraiment. Prenez cette décision pour vous déjà et puis faites-la connaître à vos proches, évidemment, parce que beaucoup de gens me disent « Ah, mais moi, je suis déjà inscrit, voilà, j'ai déjà ma carte de donneur. » Alors, il n'y a plus de carte
c'est
de donneur.
C'est plus la peine, non, monsieur, maintenant.
Voilà, on est tous donneurs.
De fait, on est tous donneurs, sauf si on s'y oppose.
Voilà, sauf si on s'y oppose. Mmh. Mais la meilleure manière de parvenir à être donneur, si les conditions du décès le permettent, c'est encore de le faire savoir aux proches.
Bien sûr.
Voilà, qui seront interrogés au moment du décès. Voilà, on leur posera la question. Donc, il faut leur simplifier la vie en leur disant quelle est votre décision. Que eux n'aient pas à prendre une décision pour vous qui serait trop lourde pour eux à porter après.
Merci mille fois, Florence, pour ce témoignage.
Merci. Merci à vous.
Merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir.